Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 17-19, le magazine, c'est Leïla Djebbour, je suis ravie de vous accompagner durant deux heures. Nous suivrons ensemble l'essentiel de l'actualité à travers des reportages, des analyses et des décryptages en compagnie de nos collègues journalistes de la rédaction. Et au programme ce soir, Samy Alloun nous emmène au cœur d'un projet industriel stratégique, direction Oued Amizour, dans le reportage du jour où le gisement de zinc et de plomb entre en phase décisive avec des retombées économiques, sociales et environnementales importantes pour la région et le pays. Dans l'instant santé, focus sur une avancée médicale au CHU de Bab El Oued. Le service de la chirurgie thoracique a recours à de nouvelles technologies dans la prise en charge de la parathyroïde, une innovation porteuse d'espoir pour de nombreux patients. Et dans l'actualité internationale, zoom sur le monde avec Liestel Rini. Nous reviendrons sur cette initiative internationale portée par le président américain Donald Trump, le Board of Peace. Ce conseil de la paix s'affiche a affiché comme objectif de soutenir les efforts de stabilisation, de promouvoir une paix durable dans les zones touchées par les conflits. Un projet accueilli de manière contrastée par la communauté internationale. Et en deuxième partie de ce magazine, nous retrouverons la rubrique TIC et médias. Reda Menassel nous fera voyager entre technologie et espace avec la mission NISAR et le docking spatial commercial au service de l'observation de la Terre. Et côté culture, la Cinémathèque algérienne célèbre 61 années de cinéma et de passion. Amateurs et curieux se sont retrouvés pour une cérémonie riche en souvenirs et en émotions. Selim Brahimi y était sur place pour nous faire vivre cette fête du 7e art. Toutes ces thématiques seront abordées dans ce magazine. C'est jusqu'à 19h en votre compagnie. Ça commence tout de suite par le reportage du jour.
Le reportage du jour.
Cap sur Oued Amizour où un projet industriel stratégique prend une nouvelle dimension entre enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le gisement de zinc et de plomb s'apprête à entrer dans une phase décisive avec des retombées majeures pour la région et le pays. Les détails avec Samy Alloun.
Un projet d'envergure situé entre Tall Hamza et Oued Amizour qui a le potentiel de produire l'un des plus grands volumes de métaux, zinc et plomb du continent. Madame Merim Touati, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de BZL, Béjaïa for Zinc and Lead, anciennement connue sous le nom de WMZ, Western Mediterranean Zinc. Dans quel contexte ce projet minier voit-il le jour?
Le monde d'aujourd'hui a besoin de métaux essentiels, en l'occurrence cuivre, zinc et plomb, lithium. Ce sont des piles de la transition énergétique. Le projet Tall Hamza s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Donc c'est une initiative portée par la société Béjaïa for Zinc and Lead. C'est un partenariat entre les deux sociétés étatiques nationales ENOF, l'ORGM et puis le partenaire australien Teramine Australia. Donc l'objectif étant de mettre en valeur un gisement stratégique en Algérie. C'est une mine responsable intégrée dans son environnement. C'est une exploitation souterraine qui s'étendra sur 19 ans. Donc les ressources géologiques sont estimées à 54 millions de tonnes et puis les réserves exploitables de 34 millions de tonnes. Pour une capacité de production de 2 millions de tonnes par an, donc 170 000 tonnes zinc et 30 000 de plomb.
Ce projet d'envergure de la mine de zinc et de plomb va engendrer à son tour des effets socio-économiques. Quelles seront les retombées de ce projet sur la société?
Le projet prévoit la création de plusieurs centaines d'emplois directs et des milliers d'emplois indirects dans les services, le transport, la maintenance et autres. Les entreprises locales seront sollicitées et les programmes de formation seront mis en place pour renforcer les compétences dans la région et même d'ailleurs, sans oublier les améliorations d'infrastructures, les routes, électricité, réseaux, etc. Donc le développement économique n'est donc pas une conséquence secondaire, mais un objectif intégré dès la conception du projet. Le projet devra créer environ 700 postes selon le plan initial et principalement destiné aux diplômés universitaires, aux lauréats de formation professionnelle. Et de plus, il va générer plus de 3 000 emplois indirects dans le secteur du transport et des services.
Quelles sont les retombées économiques de ce projet?
Le projet va contribuer à satisfaire une part importante de la demande nationale en zinc et plomb, ce qui permettra de réduire la facture d'importation de ces métaux non ferreux. Le surplus de production sera exporté, ce qui va générer des revenus en devise pour le pays. Et le projet ne se limite pas à l'extraction, donc il comprend également une usine de traitement pour produire le concentré, en fait, et transformer le concentré en lingots. L'objectif du projet étant de positionner notre pays parmi les principaux producteurs mondiaux de zinc en visant un classement avancé à l'échelle internationale et en renforçant la crédibilité de l'attractivité du secteur minier algérien pour les investisseurs étrangers.
Étant donné l'ampleur de ce projet d'envergure, des mesures préventives ont-elles été prévues afin de réduire les impacts écologiques?
Il y a eu l'étude et cadre réglementaire. Avant le lancement du projet, une étude d'impact sur l'environnement a été réalisée et validée conformément à la réglementation nationale. Cette étude a permis d'identifier des risques potentiels liés à l'exploitation du gisement et de définir un plan de gestion environnementale détaillé. Par exemple, la gestion des eaux et des influx. Donc, on peut citer également la gestion des déchets miniers. Plus de 70% des résidus seront réinjectés pour le remblayage et la réhabilitation progressive des zones exploitées. En pourcentage restant, sera stocké dans un de cake storage. C'est une sorte d'emplacement sécurisé. Il y a aussi le point de la protection de l'air et la réduction des nuisances. Dernier point, peut-être le suivi et la gouvernance environnementale, associant les autorités locales, l'entreprise exploitant son AREM et les représentants de la société civile.
Madame Berim Touetsi, directrice générale de BZL, Béjaïa for Zinc and Lead, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
C'était le reportage du jour avec Sami Alloun. Il est 17h14, place au correspondant du jour.
Le correspondant du jour.
Direction Sogharas avec le projet de dédoublement de la voie ferrée Est entre contraintes locales et enjeux de circulation. Sadak Bourawi fait le point sur les dernières avancées et les solutions envisagées.
Au lendemain de la visite de travail et d'inspection effectuée par Abdelkader Djellaoui, ministre des Travaux Publics au niveau de la wilaya de Sogharas, Abdelkrim Zinaï Walid de la wilaya a présidé une importante réunion dont son ordre du jour a concerné la levée de tout blocage entravant le projet de dédoublement de la voie ferrée, surtout la rectification du tracé de la ligne ferroviaire phosphate dans sa partie traversant la wilaya. Considérant l'urgence de la situation, le chef de l'exécutif a rappelé à tous les intervenants présents dans ce regroupement, concernant bien sûr ce méga projet, qu'ils soient du secteur technique ou administratif, locaux ou centraux, en plus des représentants de la société chinoise, il a rappelé les contraintes qui se résument à la déviation des canalisations de gaz et pylônes électriques situés sur le tracé qui freine l'avancement du projet. Et de là, il a été décidé d'élaborer un plan d'action rapide, axé sur une coordination étroite entre les intervenant tout secteur confondu en s'engageant sur des échéances précises. Des échéances fixées pour lever ces contraintes identifiées et dans le respect total des normes de sécurité. Dans son mot de la fin, le Wali a invité toute l'assistance présente à cette réunion à faire preuve de dynamisme, d'abnégation, afin de livrer ce projet dans les meilleurs délais vu que les conditions de réussite s'y apprêtent. De son grâce, Sadr Bourawi pour Al-Jachin 3.
C'était le correspondant du jour. Place à la musique pour vous accompagner avant de retrouver le reste de l'actualité. 17h20 minutes sur Alger Chaîne 3, bienvenue dans le magazine. Si vous venez de nous rejoindre, place à l'instant santé.
Ce programme vous est présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
L'instant santé avec Hassan Chemesh.
Focus sur une avancée médicale au CHU de Bab El Oued. Le service de la chirurgie thoracique a recours à de nouvelles technologies dans la prise en charge de la parathyroïde. Une innovation porteuse d'espoir pour de nombreux patients. Les détails avec Hassan Chemesh.
Professeur Karima Achour, bonjour. Vous êtes la chef du service chirurgie thoracique au niveau de l'hôpital de Bab El Oued. Qu'est-ce que c'est qu'une parathyroïde, professeur Karima Achour?
Ce qu'il faut savoir, c'est que les glandes parathyroïdes, c'est une glande parathyroïde. Ce sont quatre petites glandes qui sont à côté de la thyroïde. D'ailleurs, leur nom le signifie bien parathyroïde. Elles sont là pour réguler le taux de calcium par une hormone qui est la parathormone. Le problème, c'est que des fois, on est amené à avoir des pathologies de cette glande parathyroïdienne. Car normalement, elles sont toutes petites. Elles sont là simplement pour nous réguler notre calcium. Mais des fois, on se retrouve avec des dérèglements. Donc, il faut les enlever. Soit elles peuvent être source de dérèglements, soit pas aussi, on peut avoir un lieu de tumeur au niveau de ces parathyroïdes. Donc, nous, en tant que chirurgiens, donc les endocrinologues, nous les adressons pour pouvoir les enlever. Des techniques anciennes étaient à savoir de faire des chirurgies assez larges sous anesthésie générale. Maintenant, ce que nous avons décidé, on a essayé, nous, en tant que chirurgiens, de sortir de notre petit confort de chirurgie pour pouvoir se mettre un petit peu aux nouvelles techniques de diagnostic et de repérage. Nous avons utilisé les scouts magnétiques pour le sein, pour ces petites lésions de sein qui n'étaient pas visibles à l'œil et qui nous permettaient de garder le sein. Nous avons essayé de reproduire cela au niveau de ces parathyroïdes qui des fois sont tellement petites que même lorsque nous ouvrons, nous pouvons passer à côté. Nous pouvons ne pas les voir. Des fois, ça se passe assez lent et on est très souvent obligé de les faire sous anesthésie générale. Donc avec cette nouvelle technique, ça nous permet de les repérer échographiquement en préopératoire et lorsque nous décidons de les programmer, de les ramener au bloc opératoire, de préparer un bloc de la région à anesthésier pour éviter l'anesthésie générale.
Alors, professeur Karima Achour, vous pouvez nous détailler, nous donner plus d'informations sur cette nouvelle technique.
La chirurgie n'est pas simplement que les bistouris. La chirurgie, c'est de s'ouvrir aux nouvelles voies, on va dire, d'investigation qui nous permettent, nous, chirurgiens, de minimiser notre geste et de favoriser à ce moment-là de régler le problème du patient et de diminuer son hospitalisation qui n'est à ce moment-là que de 24 heures. Donc, la chirurgie, bien sûr, va nécessiter un moyen. C'est des moyens techniques, à savoir des scouts magnétiques qui sont disponibles dans notre structure, qui sont mis à l'intérieur. Et en péropératoire, en ayant des incisions, faisant une incision élective sur le patient, très souvent avec des blocs nerveux qui sont faits par nos réanimateurs. Si on peut associer une hypnose en plus de ça, ce serait encore génial. Mmh. Ce qui permet de nous directement de poser, de se retrouver grâce à cette, on va dire avec une sonde que nous avons, qui est comme un échographe, qui permettra de détecter ce scout magnétique, nous pouvons être quasiment sûrs d'être dans cette parathyroïde et l'enlever avec un minimum d'incision. Et bien sûr, au bout de 24 heures, la personne peut ressortir et retourner dans son service endocrino pour être pris en charge.
Et c'est l'un des avantages de cette nouvelle technique.
C'est excellent. Donc, c'est comment utiliser des techniques qui étaient utilisées dans le sein, par exemple, ou dans d'autres organes, à pouvoir les utiliser vers une pratique courante que nous faisons en chirurgie thoracique, à savoir cette chirurgie qui est quand même assez fréquente.
Ça, hein. C'est comme lorsqu'on parle de la chirurgie, c'est la chirurgie mini-invasive, c'est ça?
Oui, c'est...
Une petite incision. Il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas de...
Hein, c'est, voilà, c'est un petit limiter de ça. La cicatrice, oui. Limiter déjà l'anesthésie.
Oui.
Éviter l'anesthésie générale.
C'est local.
C'est du loco-régional, c'est-à-dire qu'avec un échographe, nos réanimateurs permettent de nous faire des blocs nerveux qui sont spécifiques à la région, parce qu'on a 4 parathyroïdes, donc il faut réellement les retrouver. Et ces parathyroïdes sont réellement collées avec la thyroïde. Elles sont collées au nerf, le nerf récurrent. Elles sont collées au vaisseau. Donc, il faut aller de manière élective. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais de faire une chirurgie qui va apporter un plus aux patients et qui nous permettra à nous de chirurgiens de se mettre à jour sur ce qui se fait de par le monde.
Donc c'est la première malade.
Oui, c'est la première malade que nous avons fait aujourd'hui et c'était un réel succès.
Elle quittera l'hôpital donc demain.
Voilà, donc c'est une vieille dame qui a une hypercalcémie assez élevée, qui a été régulée et pour lequel nous avons enlevé sa formation, qui faisait 22 mm. Donc très difficile, elle avait un gros goitre quand même, parce qu'elle vient de la région, on va dire montagneuse, qui présente un gros goitre. Ça aurait été très très difficile sans ce squat magnétique de retrouver cette parathyroïde sans avoir fait une incision large, une anesthésie générale et tout cela.
Merci beaucoup, professeur.
Je vous remercie.
Ce programme vous a été présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
La suite en musique avant de retrouver l'actualité internationale, c'est dans quelques instants. 17h30, place à l'actualité internationale avec Zoom sur le monde dans le magazine.
Zoom sur le monde avec Liesther Reyny.
Gros plan sur le Conseil de la paix, le Board of Peace de Donald Trump, une organisation internationale qui affirme vouloir promouvoir la stabilité, rétablir une gouvernance fiable et œuvrer pour une paix durable dans les zones menacées par les conflits, notamment à Gaza, une initiative qui suscite des réactions contrastées sur la scène internationale et soulève de nombreuses interrogations géopolitiques.
Monsieur Alexandre Aoun, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Nous allons nous intéresser au fameux Conseil de paix de Donald Trump. Une organisation qui pourrait remplacer l'ONU selon les dires du président américain. Comment pourrait-on définir ce projet et qu'est-ce qu'il prévoit pour la bande de Gaza?
En effet, le Conseil de Donald Trump était attendu, était dans les petits papiers depuis plusieurs mois, depuis l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël en octobre dernier. Donald Trump avait fait un peu de teasing dessus en annonçant que ça allait être quelque chose qui allait révolutionner les organisations internationales et mettre fin aux conflits mondiaux. Il l'a annoncé en grande pompe parce qu'on sait pertinemment que Donald Trump est un homme du deal, un homme des négociations. Après ça, concrètement, c'est Jared Kushner qui a pris un peu le lead de la présentation de ce projet, notamment pour Gaza, montrant qu'est-ce que pourrait devenir Gaza si la reconstruction a lieu. Des belles images de plages luxueuses avec des gratte-ciel flambant neufs. On le sait pertinemment que Donald Trump, pour faire en sorte qu'il soit un peu adoubé par une grande partie de la communauté internationale, a envoyé une soixantaine d'invitations. On sait qu'une trentaine ont répondu favorablement.
Justement, après la signature de la charte fondatrice, qui composera ce Conseil de la paix de Donald Trump ?
Ça va aussi bien du Vietnam en passant par la Mongolie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, des pétromonarchies du Golfe comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats ou encore l'Égypte ou l'Argentine. Donc c'est vraiment hétérogène en termes de pays, c'est pas des puissances qui forcément ont une ligne directrice. Pour devenir membre permanent, il faut un billet, un ticket d'entrée d'$1 milliard. Ce milliard est censé financer la reconstruction de Gaza et d'autres projets à terme en vue de pacifier les conflits. Sauf que même dans le Conseil de paix, il n'est même pas fait mention de ce qui se passe à Gaza. Il n'est même pas fait mention du retrait potentiel de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Or, aujourd'hui, à mon sens, si les pays arabes donc et les pays musulmans comme la Turquie, le Pakistan ou l'Indonésie ont rejoint ce Conseil de paix, c'est une manière pour eux de faire en sorte de basculer le centre de gravité de la géopolitique mondiale vers tout simplement des intérêts qui pourraient être plus compatibles avec les intérêts arabo-musulmans, donc notamment potentiellement sur la cause palestinienne, faire avancer leur pion. C'est une manière de se dire, nous ne nous mettons pas à dos Donald Trump, mais nous allons le suivre et l'épauler dans ce projet par le biais de la diplomatie et du dialogue constructif, de faire en sorte de bouger un peu les lignes, notamment sur Gaza.
Sur le terrain, comment ce Conseil de paix peut encadrer la transition politique à Gaza?
Sur ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, Donald Trump veut faire avancer le dossier vers l'étape 2. Donc l'étape 2, c'est le désarmement du Hamas et un retrait progressif des forces israéliennes. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on sait pertinemment que le Hamas ne veut pas négocier démilitarisation du mouvement tant qu'il n'y a pas la création d'une solution à deux États et tant que l'armée israélienne ne s'est pas retirée de l'enclave palestinienne. On sait dans un second temps que le Hamas est prédisposé à livrer ses armes lourdes, mais à garder ses armes légères et à garder un rôle politique tout en laissant la gouvernance à ce conseil technocratique palestinien qui a été formé par ce conseil de paix de Donald Trump. C'est mettre en place également une zone avec des villages permettant un déplacement de la population palestinienne pour commencer le début de la reconstruction. Malgré l'opposition de Benjamin Netanyahou de voir l'armée turque et qatari sur place, Donald Trump, lui, est favorable à voir qu'est-ce qui pourrait donner comme résultat sur court terme.
Merci monsieur Alexandre Aoun d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Proche et Moyen-Orient.
Zoom sur le monde avec Liesther Reyny.
Vous êtes sur Algéchaîne 3, le magazine continue en musique avec Metallica, Nothing Else Matters.
so close, no matter how far. It couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and not find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else. No matter how far, it couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know.
Direction Oran El Behia, plus exactement au musée d'art moderne d'Oran, où se tient une exposition de peinture dédiée au peuple palestinien de Gaza. Pour nous en parler, Mohamed Hamza Belmadani. القدس وعكا نحن إلى
يافا في غزة نحن وقلب جنين. Le Musée national public d'art moderne et contemporain MAMO à Oran a accueilli la deuxième édition de l'exposition collective de Soul et décombres Gaza en couleur, qui a mis en lumière à travers l'art les crimes commis contre le peuple palestinien et souligne sa résilience, son espoir de liberté et de dignité. Cette exposition solidaire a été ouverte en présence du secrétaire général de la Wilaya et la directrice de la culture et plusieurs artistes plasticiens. Le commissaire de l'exposition, l'artiste peintre Qabli Samir.
Là, on est en deuxième édition au musée MAMO d'Oran, de l'art contemporain. Et Inch'Allah, il y aura d'autres éditions. On va faire 7 éditions. On va partir jusqu'à l'extrême sud. Comme ça, on va marginaliser aucun peintre. On va essayer de travailler avec tous les peintres. Et là, on expose, on travaille avec les gens de la Wilaya et ses environs.
Combien d'artistes sont présents?
Là, on est 25 artistes présents ici, d'Oran, de Blabas, de Tlemcen, de Mostaganem, pratiquement tout le... Voilà.
Il y a un programme d'activité durant les jours.
On aura une conférence avec une docteure en philosophie de l'art, c'est Madame Gigi Brahimi. Et après, le mardi, on a un workshop pour les enfants.
Du lundi au mercredi 28 janvier, l'exposition se poursuit au sein de la salle Didier, offrant au public une immersion continue dans les œuvres présentées. Le mardi 27 janvier sera marqué par une animation spéciale destinée aux plus jeunes, avec des ateliers pour enfants programmés à 13h. Les travaux réalisés seront présentés au public à 16h dans la salle d'exposition, suivie à 16h45 d'une remise de cadeaux symboliques en guise d'encouragement. La manifestation prendra fin le mercredi 28 janvier avec la poursuite de l'exposition dans la matinée avant la cérémonie de clôture prévue à 13h au cours de laquelle des attestations de participation seront remises aux artistes. Doran Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jaychan 3.
روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يعي على مكي لالي وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يعي على مكي لالي وجبالك حرين يا عيا على مكي لالي يا أرض صلاح الدين
احنا معاك شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم صامم قلبي لا تأخر أبدا للفتح وطني وشعبي هما المسبدين ايه تحيا فلسطين
نهديلك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا رب فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعني مكي لالي وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين
فلسطين تورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان احنا هو مصحف التضحية ما نخاف وعديان سبيل الله والحرية احنا المجاهدين يا أرض فلسطين
يكون القلب يتكسر جاك يا رحمة يبقى ساقطنا النجبار معني من العينين تحيا فلسطين
ناوي روحي وماجي ونحن فيك بمين نفديك بدم الغالي يا فلسطين قسما بالله العالي رب العالمين يا لمكي
On continue de vous accompagner en musique. Il est 17h, bientôt 49 minutes, avec le groupe Day El Berja.
الالاف مرسومه في الحيطان قصور زادت حياه ما يشبه لك حتى مكان
Restez avec nous, on se retrouve juste après le sommaire de 18h pour la suite du magazine. Il y aura de l'actualité sportive avec Nassima Djaout et la rubrique TIC et médias avec Reda Menassel qui nous fera voyager entre technologie et espace avec l'émission NISAR et le docking spatial commercial au service de l'observation de la Terre. Et il y aura également de l'actualité culturelle avec la Cinémathèque algérienne qui célèbre ses 61 ans. Amateurs et curieux se sont réunis pour une cérémonie riche en souvenirs et en émotions. Et Salim Brahimi y était sur place pour nous faire vivre, pour nous faire vivre cette fête du 7e art. Et ce n'est pas tout. Donc restez, c'est juste après le sommaire pour la deuxième partie.
Oh,
18h, l'heure de retrouver le sommaire en compagnie de Nariman Mendel. Nariman, bonsoir.
Bonsoir Leïla, madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce lundi 26 janvier, le président de la République a reçu le secrétaire général adjoint des Nations Unies, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Régularisation des Algériens en situation irrégulière à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères les appelle à se rapprocher des représentations diplomatiques et consulaires. Dossier mine dans l'édition de 19h. Examiné en Conseil des ministres, le projet de Garadj Bilat et celui de Bled El Hadba seront livrés cette année. Les travaux de la mine de zinc et de plomb de Wadamizol seront lancés en mars 2026. Des projets avec un impact économique et social. Le ministre des Hydrocarbures et des Mines est à Niamey. L'Algérie prête à reprendre les activités au niveau du champ de Kafra, affirme Mohamed Arkab, son homologue nigérien. Réunion tripartite sur la Libye, un communiqué conjoint adopté. Il souligne l'impératif d'une direction libyenne du processus politique. Le ministre des Affaires étrangères a pris part à la réunion. Chapitre intempérie, une femme est décédée à Tizi Ouzou après l'effondrement d'un mur d'une bâtisse. Le froid favorise également la propagation des virus grippaux. Plusieurs virus circulent en même temps. Les enfants particulièrement touchés. De quoi s'agit-il ? Des réponses dans l'édition. Il y aura également du sport, du handball, plus exactement la sélection nationale affronte demain l'Angola, le 7 national dans l'obligation de gagner pour passer aux demi-finales des championnats d'Afrique des nations de la discipline. Tous ces titres seront développés dans l'édition de 19h, mais tout de suite je vous laisse en compagnie de Leïla Dubourg pour la météo.
Bonsoir à toutes et à tous. La météo pour cette nuit sur l'ouest, le littoral, l'intérieur et les hauts plateaux. Le temps sera nuageux avec quelques averses localement assez marquées avec des chutes de grêle. Les flocons sont attendus sur les reliefs qui dépassent les 1400 mètres centre-est et à l'est du pays. Les vents seront de secteur 30 à 50 km heure pouvant atteindre les 70 km heure sur les hauts plateaux. Sur les régions sahariennes, le ciel sera dégagé à partiellement voilé, passagèrement nuageux au nord et dans les oasis, avec des vents modérés de 20 à 40 km heure, soufflant parfois jusqu'à 50 km heure. Les températures pour ce soir, il fera 10 degrés à Annaba, 14 degrés à Tizi Ouzou, 7 degrés à Constantine, 10 degrés à Tlemcen, 18 degrés à Biskra et 14 degrés à Bojbet du Mortar.
Thank you.
it needs time to win back your love again. I will be there, I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there, I will be there. I'll fight to win back your love again. I will be there, I will be there. Love, only love can break down the wall someday. I will be there, I will be there.
Your pride, and I know what you've been through. You should give me a chance. This can't be the end. I'm still loving you. I'm still loving you.
Bienvenue dans la deuxième partie du magazine. Il est 18h13 minutes et pour commencer la page sport avec Nassima Djaout. Bonsoir.
Bonsoir Leïla.
Comment ça va?
Bien.
On commence
très très bien.
Très bien, voilà, oui. Avec un temps pluvieux aussi.
Exactement, et frais. Très frais.
Tout ça pour parler de football et des dernières nouvelles de l'international algérien Youssef Attal qui est malheureusement blessé.
Oui, le défenseur international algérien qui évolue à 7 de Qatar est victime d'une rupture du tendon d'Achille au pied droit, subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Le club, son club l'a annoncé aujourd'hui et il a contracté une blessure, à savoir une rupture du tendon d'Achille de son pied droit. Il sera opéré dans les prochains jours et la durée de son l'indisponibilité dépendra de l'évolution de son état de santé. Attal s'est blessé samedi lors de la Super Coupe Qataro-Emirati face à Al Ahly de Dubaï, 3-2 pour l'équipe de Sedd. Ça s'est passé à Doha. Le latéral droit algérien s'est blessé tout seul en tentant de frapper le ballon. Il a cédé sa place en début de la seconde période à la 46e minute de jeu. Il s'agit d'un coup dur pour Youssef Attal qui pourrait manquer la prochaine Coupe du Monde 2026 qui est prévue cet été. L'été prochain, donc aux États-Unis, Canada, au Mexique, l'ancien joueur de l'OGC Nice a pris part à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, prenant part à un seul match face à la Guinée équatoriale. Je le rappelle, l'Algérie avait battu la Guinée équatoriale 3-1. C'était le troisième et dernier match de la phase des groupes.
Et on passe aux joueuses qui évoluent dans le championnat national susceptible de rejoindre l'équipe nationale féminine de football qui ont entamé hier leur stage à Blida.
Et lors de ce stage, de ce regroupement, deux matchs d'application sont prévus pour l'équipe nationale. Le premier match cet après-midi face à Alger Centre au stade Mustapha Chaker et le second est prévu demain face au Chebeb de Belouizdad au centre technique de Sidi Moussa à 16h. Le sélectionneur de l'équipe algérienne Khalid Benstiti a convoqué 27 joueuses locales, toutes locales d'ailleurs, comme vous l'avez si bien dit, 23 joueuses de champ et 4 gardiennes de but. Le but de ce regroupement, c'est une occasion pour le sélectionneur Khalid Benstiti d'offrir l'opportunité de démontrer les capacités de ces joueuses techniques et physiques en vue d'une éventuelle intégration au sein de la sélection algérienne qui a des objectifs et des échéances proches. Au mois de mars d'ailleurs, la Coupe d'Afrique des Nations, premier match le 17 mars, l'Algérie face au Sénégal. Le deuxième match le 20 mars prochain, Algérie pays organisateur. Et il y aura le troisième match du premier tour de la CAN. Ça sera face au Kenya le 23 mars prochain.
Et on reste avec le football et le milieu offensif Abdelrahim Bouhakez qui rejoint l'USM El Harrach, club de Ligue 2 pour 6 mois.
Oui, et c'est l'USM El Harrach, club de Ligue 2 groupe Centre-Ouest de Ligue 2, donc qui a annoncé ce matin le recrutement du jeune meneur de jeu du Chebeb Adrar, Abdelrahim Bouhakez, qui n'a que 23 ans. Il a signé un contrat de 6 mois qui court jusqu'à la fin de la saison actuelle. Le jaune et noir qui reste sur un nul 0-0 chez l'US Béchar Jdid dans le cadre de la 17e journée le week-end dernier occupe actuellement la deuxième place au classement avec 35 points à 6 points de retard du leader qui est la JSE El Bihar qui totalise 41 points. Mais le club d'El Harrach ne désespère pas de terminer la saison en beauté en décrochant l'accession tant que pour la Ligue 1 bien entendu. Bouhakez est la quatrième recrue hivernale pour le club d'El Harrach après le défenseur Moad Rajem et Lahsen Bouzien ainsi que le jeune milieu offensif Ramzi Bensafi et donc l'USM El Harrach qui recrute en vue de bien entendu une éventuelle accession et oui. C'est encore possible pour El Harrach.
On passe au handball avec handball. On a toujours ce problème.
Exactement, tout le monde a ce problème. Handball et handball. Et oui. C'est handball parce que c'est un sport allemand.
Exactement,
Nassima. Anglais, comme football, basketball. Volleyball,
c'est bien,
américain.
C'est bien les petits rappels comme ça. Oui, il faut savoir que on passe à l'Algérie-Angola avec demain. Donc ce sera demain pour le compte de la deuxième journée du tour principal du championnat d'Afrique des Nations qui se poursuit. C'est à Kigali, au Rwanda. L'équipe nationale algérienne est dans l'obligation de gagner.
Tout à fait. Le 7 Algérien affrontera l'Angola demain à 10h30 du matin. Un match décisif pour une qualification en demi-finale. Et justement, on va écouter l'autre fille, Benidir, qui nous fait le point et l'importance de ce match.
Dans la course aux demi-finales, les calculs sont simples. Les Verts doivent battre l'Angola par 3 buts au minimum pour se qualifier au goal average particulier. Le sélectionneur national, Saleh Bouchkrio, y croit à condition d'être nettement plus efficace devant.
Maintenant, il nous reste un match très difficile contre l'Angola. Il faut qu'on gagne au minimum 3 points d'écart pour se qualifier en demi-finale. Je pense qu'on a les moyens, mais il faut pas rater. Il faut pas faire de fautes techniques, il faut pas rater et bien défendre. On sera au rendez-vous, Inch'Allah.
La deuxième et dernière journée du tour principal est prévue pour demain. L'Algérie jouera sa dernière carte face à l'Angola à partir de 10h30 heure algérienne. Le match de la survie pour le 7 national dans l'espoir de passer en demi, mais surtout d'arracher le billet qualificatif pour le prochain mondial prévu en 2027 en Allemagne.
Et je rappelle que l'Égypte, qui est tenant du titre à 3 reprises, occupe la première place avec 4 points devant l'Angola et le Nigeria qui se partagent cette deuxième place avec 2 points. L'Algérie ferme la marche avec 0 point. Demain, l'Égypte rencontrera le Nigeria à partir de 15h30.
Handball toujours avec le championnat d'Europe qui se déroule en Norvège, en Croatie et au Danemark. De belles affiches au programme aujourd'hui dans le groupe 1.
Tout à fait. Alors, en ce moment même, se déroule le match Espagne-France. L'Espagne qui mène après 18 minutes de jeu, 11 buts, je pense que c'est du volley. 11 à 8 pour l'Espagne face à la France. Et juste avant cette rencontre, le Portugal et la Norvège ont fait match nul, 35 partout. Et dans ce groupe, eh bien, ce soir, le big match, vraiment l'affiche, un superbe match à partir de 20h entre l'Allemagne et le Danemark. Je rappelle qu'hier, la France avait battu le Portugal 46 à 38. Le Danemark s'est imposé face à l'Espagne 36 à 31. Et l'Allemagne a battu la Norvège 30 à 28. Et dans ce groupe, le groupe 1, c'est l'Allemagne qui occupe la première place avec 6 points. On retrouve la France et le Danemark avec à la deuxième place avec 4 points. La Norvège et le Portugal 4e et 5e avec 3 points. Et c'est l'Espagne qui est dernier avec 0 point. L'Espagne qui est en train, je le disais, de mener face à la France 12 à 8. Et puis dans le groupe 2, hier, eh bien, la Croatie s'est imposée face à la Suisse 28 à 24. L'Islande, grand pays de handball, a battu la Suède 35 à 27. Et la Slovénie s'est imposée face à la Hongrie 35 à 32. Et dans ce groupe, c'est la Suède, l'Islande, la Croatie et la Slovénie qui se partagent la première place avec 4 points. Et on retrouve la Hongrie avant-dernier avec la Suisse avec 1 point chacun.
Et on passe au voile, Nassima, oui. Très belle discipline.
Ah oui, on va mettre les voiles aujourd'hui.
Tout à fait. On peut pas, avec le temps, mais kiffer, mais bon. Avec les sélections algériennes qui ont embarqué cet après-midi pour l'Égypte en prévision des championnats arabes prévus du 28 janvier courant au 1er février prochain à Somabaï.
Tout à fait, forte de 18 athlètes, messieurs et dames, la sélection algérienne sera engagée dans différentes spécialités dans ces championnats arabes, à savoir le Ikif Oil, ILCA, Big Techno et Optimiste. Je connais surtout Big Techno et Optimiste. Conduite par Ilyes Maza, la délégation algérienne comporte plusieurs autres accompagnateurs dont les entraîneurs nationaux Manal Bouhadjera et Chaouchi Foued. Avant leur départ en Égypte, les athlètes algériens ont effectué un long stage de préparation à l'École nationale des sports nautiques et subaquatiques à Alger Plage. Malgré les conditions météorologiques difficiles au cours des derniers jours, il y a eu du vent et la houle, bien entendu. Les athlètes ont travaillé avec diligence, affirmant avoir beaucoup progressé à l'issue de ce stage, dont une partie a été dirigée par l'ex-international italien Manuel Santiago Lopez. Et justement, on va écouter Lina Ghebli. Engagée en optimiste, elle estime que la préparation de l'équipe a été très très bonne, excellente.
Nous nous sommes bien préparés. Nous avons participé dernièrement à une compétition au Koweït où nous avons également effectué de très très bons entraînements. Nous avons bénéficié de très bons stages avec la Fédération algérienne de voile. Nous avons bénéficié même des services d'un expert italien qui nous a permis d'améliorer notre niveau. J'espère qu'en Égypte, je ferai de mon mieux pour améliorer mon classement.
Inch'Allah, la compétition fait ma scène des meilleurs classements.
Voilà, donc c'était l'athlète, la jeune athlète Lina Gebli, donc qui prendra part au championnat arabe de voile. Et elle, c'est dans la spécialité optimiste. Et les athlètes, on les a vus hein, faire des déclarations comme quoi ils visent tout simplement de ramener des médailles à l'Algérie. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.
Tout à fait, Nassima. On leur souhaite de réussir. Et on termine cette page sport avec du tennis. On va parler de l'Open d'Australie.
Oui, la tenante du titre, Madison Keys, 9e mondiale, a été éliminée aujourd'hui dès les 8e de finale par sa compatriote, l'américaine Jessica Pegula en 2-7, 6-3, 6-4. Keys avait créé la surprise l'année dernière à Melbourne en battant en finale la numéro 1 mondiale et double tenante du titre Arina Sabalenka. Cette année, c'est Pegula, la finaliste de l'US Open 2024, qui affrontera une autre américaine, Amanda Anisimova, 4e mondiale, qui a battu ce matin la chinoise Wang Xiong, 2-7-0. À savoir également que Iga Świątek, la polonaise numéro 2 mondiale, est qualifiée également pour les quarts de finale. Elle a battu ce matin, puisqu'il y a un décalage horaire avec l'Australie, Madison Inglis, l'Australienne, 2-7-0 également. Et Elena Rybakina s'est imposée face à la Belge Elise Martens, 2-7-0 chez les messieurs. Lorenzo Musetti, l'Italien numéro 5 mondial, s'est imposé face à l'Américain Taylor Fritz 3-0. Ben Shelton, numéro 8 mondial, l'Américain, s'est imposé face à Casper Ruud, le Norvégien 3-7-1. Ça a été un match long, long, long. Et finalement, le dernier mot est revenu à l'Américain Ben Shelton, qui se qualifie pour les quarts de finale, tout comme l'Italien Jannik Sinner, qui a battu un autre Italien, son compatriote Luciano Dardo. 3-7-0.
Merci Nassima Djaout, c'était l'essentiel de l'actualité sportive. On continue cette deuxième partie du magazine en musique avant de retrouver le reste de l'actualité.
Too much. I set it up.
another century.
My religion, just a dream. C'était le remix avec la suite de la deuxième partie du magazine direction l'extrême sud-ouest du pays, la wilaya de Tindouf, qui vit une véritable métamorphose entre grands projets industriels, arrivée du chemin de fer et renforcement des infrastructures. La région entre dans une nouvelle ère de développement. Les détails avec Smaïl Mimouni.
Monsieur Haj Touagine Mohamed Ramdan, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des représentants des notables de la wilaya de Tindouf. Tout d'abord, la wilaya de Tindouf connaît aujourd'hui le lancement de grands projets structurants, notamment la mine de Garadj Bilet et la ligne ferroviaire reliant Tindouf à Béchar. Donc pour les habitants, c'est une véritable bouffée d'oxygène, là, monsieur Mohamed Ramdan. Comment vous avez accueilli ces projets et en tant que représentant des notables de la région, que représente aujourd'hui le début de l'exploitation de la mine de Garadj Bilet, que symbolise l'arrivée du train à Tindouf, aussi bien sur le plan économique et social?
Pour le projet de Garadj Bilet, au niveau local, ce mot projet du siècle, parce que le Garadj Bilet a été découvert en 1952. Depuis 1952, génération après génération attend l'exploitation de ce gisement important. Monsieur le Président, je crois, c'est Abdelmajid Tebboune, c'est lui qui a pris la décision courageuse de mettre en œuvre le gisement et le train. C'est la première fois qu'on a entendu le sifflet du train. Le projet est achevé à 100%. On n'attend que le démarrage réel. C'est un grand projet. C'est un plus pour l'économie nationale. Transport du minerai jusqu'à Arzeux. Mais aussi, il y a un aspect social. C'est une aubaine prendre le train. C'est un moyen de transport très important. Et il va ouvrir beaucoup de prospections pour la population. Nous, on dit la conquête du Sud, c'est le train. Bessartindo, c'est Ourgla Tamar. On va développer le sud par le train, par la rail.
Cette ligne ferroviaire va changer le quotidien des citoyens, notamment en matière de transport, de marchandises et de voyageurs. On parle de milliers d'emplois directs et indirects créés grâce à ces projets. Donc, quel impact réel observez-vous aujourd'hui sur l'emploi, le commerce et la vie économique locale?
La joie est grande. Tout le monde sont très, 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 très satisfaits parce qu'ils touchent la vie de tout le monde. Nos enfants sont recrutés. Le commerce a marché et a doublé. La réalisation a coûté 15 000 employés. 15 000 employés pour Tindouf. Et c'est une foire. Donc tout a été bougé par ce projet. Quand il commence à acheminer le minerai et à son retour du nord, Il apporte la marchandise. Encore, c'est grand chose. Et en plus, le transport des voyageurs. Mais la marchandise Tindouf acheminée, par exemple, du pôle le plus proche de Béchar, nous coûtait 15 heures de route. Par contre, le train, 8 heures. Et encore, le train, ce n'est pas comme le camion. Le train, c'est la quantité. Mais la quantité, ce n'est pas les 20 tonnes ou les 40 tonnes. C'est des milliers de tonnes. C'est 50 000 tonnes. Donc, c'est un grand projet. On est très fiers de ce projet. La joie est grande. Je suis parce qu'il touche tout le monde.
Lors de sa visite à Tindouf en 2024, le président de la République a annoncé un vaste programme de développement touchant plusieurs secteurs. Quels sont les projets structurants qui ont été réalisés jusqu'à présent à Tindouf?
Merci de m'avoir rappelé. Il y a un projet de développement de Tindouf. Il touche pratiquement tous les secteurs. L'hydraulique, il y a la santé, hôpital de 120 lits, la maternité 60 lits, l'université qui était centre est devenue université. Moi, en tant que citoyen, Tindouf, le projet de Jbilat, je ne vois que ça parce qu'il est très grand. Par contre, tous les secteurs sont touchés. Il y a la santé, l'enseignement, l'hydraulique, les routes. Le projet complémentaire de la wilaya Tindouf, initié par M. le Président Abdel Majid Tebboune lors de sa visite à Tindouf, a pratiquement balayé tous les secteurs. Et autre chose, c'est demandé par les citoyens. Et j'étais présent.
Vous avez assisté.
J'ai assisté lors de sa visite en 2024. Aujourd'hui, on voit les projets et les promesses du Président sont réalisées sur le terrain. Il y a la station d'immigration, il y a un projet colossal d'éducation, et il y a l'université qui était centre et devenue université. Lors de sa visite, on lui a posé la question, nous demandons, Monsieur le Président, de nous élever l'université à une université complète. Et alors, ok, vraiment, c'est concrétisé.
Donc, l'université de Tindouf a été élevée au rang d'université à part entière et de nouvelles formations professionnelles sont lancées, notamment en lien avec la mine et le rail. Quelle importance accordez-vous à ce volet formation pour l'avenir des jeunes?
Pour la minerie Jbilat, il y a la formation de deux volets. Il y a la formation d'exploitation de les minerais proprement dit. Il y a le train. C'est nos enfants qui sont en formation de conducteurs de train, de mécaniciens, de tout ce qui en suit, en cheminant du train.
La route Tindouf-Zouirat et la future zone de libre-échange avec la Mauritanie ouvrent de nouvelles perspectives. Comment voyez-vous le rôle stratégique de Tindouf comme porte d'entrée vers l'Afrique et bien sûr vers l'Algérie, donc la Méditerranée?
La deuxième visite de Monsieur le Président et avec le Président de la Mauritanie, les deux présidents ont décidé de créer une zone franche et ont lancé le projet de la route Tindouf-Zouirat. C'est un débouché sur l'Afrique. Et le train va jouer son rôle. C'est une porte aussi pour la Mauritanie, un débouché sur l'Afrique. C'est un échange dans les domaines économiques. À mon avis, que le train va jouer un rôle. Le train démarre du nord, des ports. Donc la marchandise mauritanienne, elle va arriver jusqu'à Tindouf.
Concernant donc le secteur de la santé, donc avec la réalisation d'un hôpital de 120 lits et le renforcement des équipements médicaux, donc en quoi ces projets vont-ils améliorer la couverture sanitaire et réduire les déplacements des malades vers le nord du pays?
Un grand nombre de nos enfants ont été formés en paramédical et une grande partie qui sont en service pour ces deux projets. Il y a aussi le centre hémodialyse, les gens se déplacent pour Béchar. C'est fini. Il a eu une extension du centre où les appareils sont là. Ils sont en service. 99% de nos demandes sont réalisées. On immobilise l'extension du centre. Elle est opérationnelle. Un nouveau scanner en vie. Nous avons le scanner et on attend prochainement l'IRM. Le projet de l'hôpital 120 lits va réduire pratiquement tous les déplacements des malades vers le nord. Il y a aussi la santé de proximité. Il y a un centre ouvert nouveau à Zergou, Hayel Hikma. Un centre à l'échelle d'un hôpital. Je l'ai visité.
L'agriculture, Monsieur Mohamed Ramdan, et l'élevage, notamment Kamelin, bénéficient également de mesures de soutien. Que pouvez-vous nous dire sur les projets engagés pour accompagner les agriculteurs et les éleveurs de la région?
En matière d'agriculture, l'État s'est penché sur l'agriculture à Tindouf. La première des choses, ils ont renouvelé la pépinière avec équipement tout nouvel et ils ont équipé les centres agricoles suivis. Il y a aussi pour les éleveurs, il y a un projet de fabrication d'aliments de bétail. C'est très important pour la région parce que l'aliment de bétail, on l'achemine de Rimchi. Donc c'est fini. Il va y avoir un centre ici. C'est un promoteur privé. C'est un apport pour les éleveurs. Ça aussi, c'est très important. temps dans l'élevage. L'élevage camelin est au vin.
En tant que représentant des notables, en tant que représentant de la population de la wilaya de Tindouf, on s'attend à ce que le développement régnera ici et que la wilaya de Tindouf aura sa place parmi toutes les wilayas du petit continent, l'Algérie.
D'accord, merci. Premièrement, c'est un grand honneur de donner l'occasion à la chaîne 3 de parler de réalité de ce projet, de grand projet. Eh bien, rassurez-vous que toute la population est satisfaite. La fête est grande. Vous avez vu l'arrivée du train. Tout le monde en a assisté. C'est un événement grand. C'est un record exceptionnel. Dans ce projet aussi, il y a un autre défi, si vous permettez, c'est les œuvres d'art dans le projet, tels que le pont de Ouad Dora sur 4 kilomètres. Ça aussi, il faut ajouter au défi. En plein désert, qui achemine le train. C'est un grand honneur pour la population de Tindouf. Je le dis au nom de tous les notables, de tous les habitants de la wilaya de Tindouf. Je remercie M. le Président. Il a tenu promesse. On est satisfait.
Monsieur Hadj Touagine Mohamed Ramdan, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'un des représentants des notables de la wilaya de Tindouf. Merci.
Merci. Moi aussi, merci de ma part.
C'était le reportage de Smaïl Mimouni. La suite en musique avec Amel Wahui.
Was
18h43 sur Alger-Chain 3. Bienvenue dans la deuxième partie du magazine. Si vous venez de nous rejoindre, place à l'actualité culturelle. La Cinémathèque algérienne célèbre son 61e anniversaire. Amateurs et passionnés se sont retrouvés pour une cérémonie qui met à l'honneur le patrimoine cinématographique national et les grandes heures du 7e art en Algérie. Les détails avec Selim Brahimi.
La Cinémathèque algérienne a soufflé sa 61e bougie. Ce temple de la mémoire cinématographique du pays a de tout temps contribué à la diffusion au large public les différentes œuvres cinématographiques d'ici ou d'ailleurs. Un hommage, une pensée et des discussions de ceux qui ont fait tourner cette salle mythique, invité par son directeur Adel Mkhalfia.
Voilà, c'est tout un programme pour l'anniversaire de Cinémathèque. On a invité l'ex-directeur au niveau de la Cinémathèque, les cadres de Cinémathèque. Concernant aujourd'hui, le journée de 25 janvier 60, on a créé la Cinémathèque d'Alger. On a organisé cet événement pour l'anniversaire de la Cinémathèque.
Khadara Boudahane est un visage indissociable de la Cinémathèque d'Alger. Elle y a travaillé pendant 41 années. Cette salle, c'est sa vie.
Mon père n'a pas vécu pour nous apprendre des choses. Il est shahid de 45, du 8 mai 45. Mon oncle non plus. Et je me suis dit, bon, la Cinémathèque, c'est une chance pour moi. La Cinémathèque, c'est ma fille. Je l'ai vu naître. C'est quelque chose que je porte toujours dans mon cœur. Tous les gens qui ont travaillé, pour moi, c'était ma famille.
Le cinéaste Ahmed Bejaoui est un ancien cadre honoré lors de cette cérémonie. Cette salle éveille chez lui des souvenirs mémorables.
Oh, que de souvenirs. Je suis sorti de l'IDEC en juin 1966 et quand je suis revenu avec mon diplôme de réalisateur-producteur, Monsieur Mahedin Moussaoui m'a convoqué et m'a dit « J'ai besoin de toi ». À la Cinémathèque. Il y a une équipe, on a besoin de jeunes comme vous pour reprendre le flambeau. Et donc j'ai intégré la Cinémathèque en juin 1966, ça fait exactement aujourd'hui 60 ans que j'ai commencé à travailler à la Cinémathèque et j'ai été à la Cinémathèque de 66 à 72. Donc voilà, c'est des souvenirs, c'est la grande époque. D'ailleurs, il y a 10 ans, j'avais réalisé un livre qui s'appelle Saga la Cinémathèque, un grand événement pour fêter les 50 ans sur cette période-là de 65 à 72 où il y a eu tous les grands cinéastes. Moi, j'ai accompagné Joseph Losey, Nicolas Rey, Youssef Chahine, tous ces gens-là. C'est quelque chose qui a été très, très important pour ma formation. Et pour la carrière que j'ai connue, je me suis forgé, j'ai fait des études, mais c'est à la Cinémathèque que j'ai appris.
Plusieurs personnalités du 7e art algérien sont venues partager leur passion pour la Cinémathèque algérienne à l'image du comédien Hassan Kechesh.
La Cinémathèque algérienne, c'est la mémoire, c'est le rayonnement du cinéma algérien, c'est préservé, c'est une bibliothèque énorme qui a la mémoire du cinéma algérien, arabe, mondial, c'est une bibliothèque des plus riches au niveau mondial qui a, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours fonctionné, il a toujours travaillé. Je crois que le cinéma doit quelque chose, le cinéma en général, à la Cinémathèque, à son activité, qui a permis, même dans les moments les plus difficiles, elle était là.
Plusieurs hommages ont été rendus aux cadres vivants et disparus, ceux qui ont permis à la Cinémathèque d'Alger de raconter le cinéma. La cérémonie s'est conclue par la projection du court-métrage « Bou'lam a tout entendu » de Khaled Bounab et Aziz Boukrouni.
Et une des grandes de... Une des gardiennes de ce sanctuaire du 7e art, c'est Madame Khadara Boudahane, bien connue de la Cinémathèque d'Alger, où elle y a travaillé 41 ans. Elle a bien voulu remémorer ses souvenirs de la Cinémathèque avec Selim Brahimi.
Bonjour, Madame Khadara Boudahane. Vous êtes l'âme de la Cinémathèque algérienne. Plusieurs générations de cinéphiles se sont succédées. Vous en sûrement croisé au niveau de la Cinémathèque. La Cinémathèque algérienne et vous, c'est une longue histoire. Quand est-ce que ça a commencé?
Bonjour d'abord aux auditeurs. Bienvenue à la Cinémathèque. Je me sens toujours chez moi. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai commencé avant la Cinémathèque. C'était l'époque du cinéma d'art et d'essai. Avant la fondation de la Cinémathèque. Il y avait le Djurdjura, il y avait le Serra
restera. Et c'est là que j'ai commencé comme caissière. Quand je travaillais là-bas, Ahmed Hossein, il venait tout le temps là-bas. Regardez comment que je travaillais. J'avais 2-3 tampons, comme ça je tamponne les tickets, le numéro de place et tout. Quand ils ont ouvert ici, il leur a dit, moi je prends la caissière de Sierra Maestra. Elle est capable. J'étais la première caissière arabe sur la place d'Alger. Il m'a appelé, je suis venue, ils ont ouvert le cinémathèque, ils ont ouvert la salle le 25 janvier 1965.
En quoi consistait votre travail à la cinémathèque quand vous avez commencé?
J'ai commencé à faire caissière. Il y avait des, on appelle ça les hôtesses d'accueil si tu veux, mais la plupart des gens, ils sont les placeuses. Placeuses, c'était cinéma. Bon, je voulais à tout prix travailler à la cinémathèque parce que c'est une institution qui donne beaucoup au peuple, la culture. Et on recevait des réalisateurs, des acteurs, des journalistes de tous les pays du monde. J'ai pas machine, l'Inde, le Turc, le gars. Américaine, italienne, l'Allemagne, la France, Tunis, les pays arabes et européens.
J'ai eu la chance de vous côtoyer quand vous étiez en poste à la Cinémathèque. Vous ne faisiez pas que caissière, vous avez fait plein de métiers. Parlez-moi justement des métiers que vous avez occupés ici à la Cinémathèque algérienne.
Bon, j'étais caissière. Quand je fais le plat, la salle, je faisais placeuse.
C'est quoi placeuse?
C'est orienter les gens, parce que les places c'était numéroté ici. Donc on a le plan, j'ai le plan à la maison, le plan t'as les places. Tu prends le ticket. Tu mets le numéro de place, tu mets la séance, première, deuxième, troisième séance, et tu fais rentrer les gens, chacun, sa place.
Des films, justement, vous discutiez, parce que vous êtes cinéphile avant d'être, de travailler à la Cinémathèque.
C'est vrai parce que, je vais vous dire une chose, grâce à Ahmed Hossein, Allah yirhamou salih, et grâce à Boudjma Akar, Charbeton, le Fermro.
Vous avez fait combien d'années de métier ici de,
42 ans.
Pardon?
42. Je faisais placeuse, je faisais caissière, je faisais responsable.
Vous côtoyez les films, les pellicules, vous les voyez défiler devant vous tous les jours. Parlez-moi d'une anecdote, d'un film, d'une projection ou d'une rencontre qui vous a marqué, qui vous est resté en mémoire.
Il y a plein d'anecdotes. Tu fais Hadja ou Tinsa Hadja, projection de marqué. Il y a les films La bataille d'Alger, il y a La voix de Slim Riyad. Slim Riyad, il a fait un film extraordinaire. La voix, les anciens acteurs, l'inspecteur Tahar, les anciens canaux rares, Rakim Abdel, Saïd Hilmi, Agoumé. Mais vraiment, c'était un très, très, très beau film qu'on a passé ici, en séance débat, bien sûr. Et il y a plein de films qui m'ont marqué, surtout les documentaires sur la révolution algérienne, sur le 45, le 8 mai 45.
Qui vous touche particulièrement?
Le film qui m'a vraiment touché, Tahar Hnesh, Les plongeurs du désert. Magnifique.
Célébration aujourd'hui du 61e anniversaire de la création de la Cinémathèque. Vous êtes ici, vous venez comme une princesse dans château. Qu'est-ce que ça vous évoque, cet endroit magnifique où vous avez passé la plus grande partie de votre vie, hein?
Ça m'a rajeuni de 60 ans. C'était mon chez-moi ici. Des fois, on restait jusqu'à 2h du matin, jusqu'à 5h du matin, avec des séances de débat, des grands réalisateurs. J'ai appris tout ce que je connais. Je me suis cultivée ici, à la Cinémathèque. Mon père n'a pas vécu pour nous apprendre des choses. Ma mère, elle est morte après mon père, parce que chagrin d'amour, elle n'a pas pu vivre après lui. Et je me suis dit, bon, la Cinémathèque, c'est une chance pour moi, c'est ma vie. Tous les gens qui ont travaillé, pour moi, c'était ma famille.
Je vous remercie, Madame Khadara, 41 années de loyaux services ici à la Cinémathèque algérienne. Et vous avez toujours l'amour de cet espace que vous, d'ailleurs, vous retrouvez avec plaisir.
C'était le reportage culturel avec Salim Brahimi et place à la rubrique TIC et médias. Reda Menassel nous emmène dans l'espace. Il nous parle des missions NISAR et des opérations de docking spatial commercial, l'amarrage qui permet de déployer des satellites pour mieux observer notre planète.
En 2026, l'observation terrestre atteindra de nouveaux sommets grâce au satellite radar NISAR, fruit de la coopération entre la NASA et l'ISRO, conçu pour cartographier la surface de la Terre avec une précision sans précédent. NISAR permettra de suivre les mouvements tectoniques, la subsidence urbaine, la déforestation et l'évolution des glaciers, offrant ainsi une vision détaillée des changements environnementaux et climatiques. Parallèlement, le docking spatial commercial progresse rapidement. Des stations privées, des cargos automatisés et des véhicules véhicules de ravitaillement, permettant désormais d'acheminer des instruments scientifiques et des charges utiles vers l'orbite de manière plus flexible et à moindre coût. L'accès à l'espace devient plus rapide et régulier, ouvrant la voie à de nouvelles missions scientifiques et industrielles. Ces technologies combinées offrent une capacité inédite pour surveiller l'environnement en temps réel et anticiper les catastrophes naturelles. Par exemple, la surveillance des glissements de terrain et des inondations peut être améliorée grâce aux données radar de NISAR, permettant ainsi aux autorités de mieux planifier les interventions d'urgence. Pour autant, l'augmentation du trafic orbital soulève de nombreux défis, notamment la gestion des débris spatiaux et la sécurité des opérations. Les scientifiques et les régulateurs doivent donc développer des protocoles robustes pour garantir la durabilité et la sécurité des missions. En 2025, l'espace et l'observation terrestre deviennent donc des outils essentiels pour comprendre et protéger notre planète grâce à la combinaison de satellites avancés et de capacités commerciales flexibles. L'innovation spatiale se traduit ainsi par des bénéfices tangibles pour la société et l'environnement, on l'espère du moins. À très vite.
C'était la rubrique TIC et médias avec Aleda Menassel. La suite en musique dans la deuxième partie du magazine. C'est déjà la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Nesrine à la console technique, Mourad à la régie d'antenne. Mourad à la console technique et Nesrine à la régie d'antenne et à notre réalisateur Ali Lawissi. Et quant à moi, je vous dis à demain, même heure, même station.